RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ils avaient enquêté sur les paradis fiscaux et leurs révélations avaient secoué le secteur de la finance, du Panama au Luxembourg en passant par la Suisse. C'est désormais au secteur de la santé que s'attaque le consortium international des journalistes d'investigation, ce groupement indépendant qui mène simultanément des enquêtes dans cette fois 36 pays en s'appuyant sur de spectaculaires quantités de données. Ce nouveau projet, rendu public le 25 novembre dernier, est baptisé Implants Files, implants comme ces appareils ou dispositifs introduits dans l'organisme en vue d'actions thérapeutiques. Il peut s'agir de pompes à insuline, de stimulateurs cardiaques ou encore de prothèses mammaires, un marché qui pèserait pas moins de 300 milliards d'euros. Ce qui ressort de ce travail de longue haleine, c'est sans aucun doute qu'il y a des changements à apporter et au plus vite dans ce secteur des dispositifs médicaux pour favoriser à la fois la transparence et la sûreté. Faiblesse de la réglementation, carence des contrôles, conflits d'intérêts, une réforme s'impose pour accroître la sécurité des patients et assainir les usages. Un nouveau règlement adopté en 2017 devrait prochainement être appliqué. Mais là encore, il y a de quoi s'interroger sur la lenteur d'une procédure lancée il y a près de 10 ans. Comment expliquer un tel retard ? Quel impact sur le plan sanitaire ? Quelle réaction de la part des autorités publiques et des industriels impliqués ? C'est ce que nous vous proposons de comprendre au cours de cette émission avec nos invités. Alors, quatre invités avec nous en studio, avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé et on les en remercie. Chloé Eketzweller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste enquêtrice au journal Le Monde, spécialiste de l'économie de la santé. Docteur Dominique Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ANSM, l'Agence nationale de la santé et du médicament. Professeur Éric Vicot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du centre d'évaluation du dispositif médical APHP, professeur de biophysique à l'université Denis Diderot Paris 7. Également avec nous, Alexandre Regnault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit des produits de santé. Et tout à l'heure, nous allons retrouver au téléphone le témoignage de Louis Vincent. C'est le fondateur de l'association de défense des porteurs de sondes cardiaques défectueuses.
Priorité santé sur RFI.
Et je vais commencer ce tour de table avec vous, Chloé Eketzweller. Vous faites donc partie de ce groupe, hein, de ce consortium de journalistes à avoir mené l'enquête. Quand est-ce que ces recherches ont commencé et sur quels matériaux avez-vous travaillé ?
Tout a commencé pour cette enquête en 2014 par une enquête réalisée par une journaliste néerlandaise qui s'appelle Jette Rauten, qui a essayé de faire homologuer un filet à mandarine comme une prothèse vaginale. Et elle a été assez effarée de découvrir que finalement plusieurs des organismes habilités à autoriser la commercialisation de cet implant médical lui avaient donné un avis plutôt favorable à l'enregistrement de cet implant.
Plutôt favorable ou favorable? Parce que ça change les choses entre le fait d'être admis et d'être admissible. Il y a toujours
une rencontre qu'elle avait eue avec eux, des discussions, et ils lui avaient émis un avis favorable. Elle n'a pas été jusqu'au bout du dossier, et ce dispositif, ce faux dispositif, n'a pas été enregistré.
On peut dire que ça vous a mis la puce à l'oreille.
Voilà, et donc elle a été alertée par ça, et c'est de là que tout est parti, et qu'ensuite ce consortium de journalisme d'investigation a fédéré des journalistes dans le monde entier pour continuer d'investiguer ce sujet, avoir une vue beaucoup plus large de ce qui se passait en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Et là, contrairement à la démarche qui avait été celle des Paradise Papers ou des Panama Papers, l'idée n'était pas d'analyser une base de données existante ou des masses de documents existants, mais de glaner chacun dans nos pays les informations portant sur les effets indésirables de ces implants médicaux.
Et contrairement aussi à ces affaires, c'était pas des fuites.
Non, c'était pas des fuites. Là, alors, c'était vraiment un travail de constitution de base de données et de création d'un outil qui pourrait être mis à la disposition du grand public pour avoir davantage d'informations sur ces implants médicaux.
Alors, avant d'entrer dans le détail, hein, Chloé Eketzweller, ce qu'on voit, c'est l'opacité du secteur avec une responsabilité, moi j'ai envie de dire, partagée. Si ce n'est d'ailleurs simplement la tolérance, c'est pas forcément de pointer, mettre en cause un tel ou un tel, c'est pas la question, mais c'est que finalement, on a l'impression que c'est une somme, une addition de dysfonctionnements.
En fait, la grosse différence avec l'univers du médicament, c'est que les implants médicaux sont largement autorisés par un système qui repose sur la bonne foi des industriels. Donc, ce sont les industriels qui réalisent ou pas des études cliniques, qui s'adressent ensuite à des sociétés privées qu'on appelle des organismes notifiés, qui vont leur délivrer en Europe ce qu'on appelle le fameux marquage CE. Mais ces industriels paient ces organismes pour délivrer ce marquage. Donc, on se doute bien que si un organisme est un petit peu trop regardant, il risque de perdre ses clients. Donc il y a évidemment un possible conflit d'intérêts qui existe. Et ensuite, une fois que les dispositifs sont sur le marché, la surveillance repose initialement quand même sur la bonne foi des fabricants, qui est supposé surveiller lui-même ses produits, alerter les autorités en cas de problème, procéder au rappel. Mais voilà, là encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment compter sur les fabricants pour aller dire voilà, mon produit ne marche pas ou a causé tant de blessés?
Alors là, c'est l'enquête, on va y revenir bien sûr dans le détail, mais on va d'abord définir avec vous, professeur Eric Vicot, ce que recouvre cette expression de dispositif médical. De quoi parle-t-on exactement ?
Alors effectivement, c'est peut-être même un des aspects extrêmement importants, c'est que sous le même mot, on va mettre des dispositifs qui sont de nature complètement différente. Si je prends quelque chose de très trivial, la baisse-langue que utilise le médecin, c'est un dispositif médical.
Le petit bout de bois
qu'on met, ça c'est un dispositif médical, au même titre que le stimulateur cardiaque, triple champ, la merveille technologique, dernière innovation dans le domaine. Donc on voit bien que sous le même mot, il y a des choses très différentes, et le problème c'est que la logique de la mise sur le marché pour ces dispositifs qui sont de nature très différente, et finalement basé sur un petit peu la même doctrine. Alors cette doctrine, de mon point de vue, elle est valable pour toute une série de dispositifs médicaux qui ne sont pas justement ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les dispositifs implantables, les dispositifs qui soignent, qui sont donc de nature complètement différente de, évidemment, la baisse-langue ou la canne qu'on va utiliser quand on n'arrive pas bien à marcher.
Ou même une compresse. Hein. Dispositif voilà. Médical, on peut le dire, qui compte beaucoup dans les progrès de la médecine, hein, pour améliorer le quotidien des diabétiques, des personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ou rénale. Professeur Eric Vicot, pas question de jeter l'anathème sur tous ces progrès de la science.
Au contraire, je pense que les dispositifs médicaux à l'heure actuelle, c'est une des sources majeures de progrès thérapeutiques. C'est pour ça que il faut absolument entourer ces dispositifs médicaux d'une évaluation qui soit à la hauteur des enjeux que ces dispositifs vont représenter dans l'avenir.
Alors justement, on voit le bon côté des choses, mais pour parler simplement aussi, professeur Eric Vicot, qu'est-ce que ça peut être la conséquence, par exemple, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a une anomalie de ce dispositif? On peut pas parler bien sûr pour tout, mais par exemple, une pompe à insuline qui ne marche plus, un stimulateur cardiaque qui est défectueux, qu'est-ce qui se passe?
Alors, le problème, il est à la fois en amont et en aval. L'aval, c'est effectivement le dispositif qui fonctionne mal et qui va poser des problèmes effectivement parfois très graves. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est le problème de la vigilance autour des dispositifs. Et je crois que ce que cette enquête révèle, mais on le sait déjà, c'est que la vigilance autour des dispositifs, elle doit être probablement complètement modifié.
Quand on dit vigilance, ça veut dire signaler quand il y a un problème, surveiller ce qui se passe.
Signaler, surveiller. Ça, c'est un des aspects, je dirais, c'est presque trop tard d'un certain côté. C'est-à-dire que quand on est au stade de la vigilance, ça veut dire que on a des dispositifs qui sont déjà implantés et qui ont créé un incident. Ce que cette enquête a bien mis en évidence, c'est le problème de l'amont. C'est-à-dire que un dispositif peut ne pas créer forcément de problème en tant que tel, mais peut être, par exemple, moins bon qu'une autre stratégie thérapeutique. Et le grand problème, c'est que ces dispositifs-là, comme ils ne sont pas évalués de façon comparative avec les dispositifs existants ou les autres stratégies thérapeutiques existantes, eh bien, on ne saura jamais si un dispositif qu'on a mis sur le marché est moins bon que ce qui est existant déjà. Donc, si vous voulez, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est qu'on est dans la culture de l'innovation plutôt que d'être dans la culture de l'amélioration.
Vous êtes médecin, comment un médecin décide d'utiliser tel ou tel produit plutôt que l'autre ?
Alors normalement, il le fait sur maintenant sur la base de ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, c'est-à-dire que on est je dirais dans l'obligation de justifier un usage parce que il y a eu des études qui ont été faites avant la mise à disposition d'un dispositif ou d'un médicament qui nous montre que c'est mieux que d'autres stratégies thérapeutiques.
Alors Alexandre Régnaud, justement, je me tourne vers vous. Vous connaissez très bien ce secteur. Quelles informations sont disponibles sur ces dispositifs, leur quantité, leurs caractéristiques? Qu'est-ce que l'on sait de ces appareils? En tout cas, quelle est l'obligation légale en termes d'information?
Alors, en termes d'information, alors il y a d'abord des obligations légales pour arriver à la mise sur le marché, bien sûr. Ça, c'est effectivement ce processus de certification et d'apposition du marquage CE qui va être délivré, en effet, par ces organismes notifiés. Ensuite, au moment de mettre le dispositif sur le marché, il y a une obligation de déclaration par l'industriel à l'agence nationale, l'ANSM, qui va ainsi avoir une vision sur ce qui arrive sur le marché. Et je pense que ce qui est également intéressant à rappeler dans ce cadre-là, c'est l'évolution des choses. Parce que c'est vrai que cette actualité, alors, elle nous donne l'occasion de porter sur la place publique un certain nombre de sujets, ça c'est vraiment très bien, mais il faut faire attention à l'effet de loupe qui comprime un peu toutes les informations dans le temps et qui donne une photo plutôt que le film. Et c'est vrai que le cadre évolue. Par exemple, il y a eu une directive en 2007 qui a déjà imposé une évaluation clinique pour les dispositifs les plus à risque, les dispositifs dits de classe 3, également pour tout ce qui est implantable, justement. Donc ça, ça date de 2007. Et puis, il y a eu ce règlement de 2017 qui, comme vous le disiez, arrive pour entrer en pleine force, on va dire, en 2020, et qui, notamment, sur la traçabilité, parce que c'était un vrai sujet, justement, important,
on va y revenir
dispose
longuement.
Ce fameux UDI, identifiant unique par dispositif.
Alors, ce cadre réglementaire, hein, vous le dites, il est en train de changer, c'est important de le rappeler, on va y revenir, mais ça ne change pas un constat avec une question qui revient, qui peut paraître simpliste, mais c'est important. Docteur Dominique Martin, pourquoi les implants ne sont-ils pas soumis aux mêmes exigences que les médicaments? Expliquez aux auditeurs, expliquez aux usagers de santé pourquoi, quand on prend du paracétamol, il y a eu tout un tas d'études très pointues, même si elles sont anciennes pour le paracétamol, c'est une vieille molécule, et pourquoi, quand il y a un dispositif ultra perfectionné, bien, il n'y a pas le même processus?
Alors, je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste faire une remarque auparavant, parce qu'il est quand même paradoxal et intéressant de remarquer qu'aujourd'hui, le médicament devient la référence par rapport à la discussion sur les dispositifs médicaux. Ça va, et alors qu'hier
mais
et demain...
Ne vous inquiétez pas, demain, ça va changer.
Voilà, ça va revenir très vite, donc je veux bien que l'autorisation règle tout. Ça me paraît pas être ce que je vis, en tout cas au quotidien. Pour autant, pour répondre à votre question, en fait, on est dans un environnement particulier qui est l'environnement européen, dans lequel il y a une discussion entre les États. Cette discussion a eu lieu et elle a été portée par la France. La France, au moment de la discussion sur le nouveau règlement, a porté l'idée que pour certains dispositifs médicaux, les dispositifs, les implantables en particulier, ceux qui sont les plus à risque, une autorisation de mise sur le marché aurait été utile. La France a porté cette discussion avec quelques autres pays. Ça n'est pas ce qui a été retenu par la communauté européenne. Donc, et on a également d'ailleurs souhaité à l'époque qu'il y ait une extension des compétences de l'Agence européenne du médicament aux dispositifs médicaux de façon à ce qu'on ait l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui en termes d'autorisation centralisée dans le domaine du médicament qu'on l'ait dans le domaine des dispositifs médicaux, notamment implantables. Ça n'a pas été retenu et c'est un autre environnement réglementaire qui a été retenu. Pour autant, le fait que la France et d'autres États aient porté cette position, donc qui était une position très qui allait loin dans le contrôle, permet quand même que le règlement tel qu'il a été retenu n'est pas le règlement qui aurait été retenu s'il n'y avait pas eu cette position de discussion. C'est ça le fonctionnement européen.
Vous avez pesé dans la balance, mais aujourd'hui...
Et ça a permis quand même d'avoir un règlement européen qui est quand même une vraie avancée par rapport à la situation précédente, avec plus de contrôle sur les ON, plus d'évaluation, et sur laquelle on reviendra sans doute, mais qui est quand même une véritable avancée, même une vraie rupture par rapport à la situation antérieure, même si tout n'est pas parfait. Il n'empêche que... si on regarde les choses effectivement en dynamique, on est bien dans un processus d'amélioration.
Alors là, on est sur la question des autorisations en amont. Ensuite, quand il y a des signalements, la NSM tient un registre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il retourne, docteur Dominique Martin?
Alors, On a parlé des vigilances, donc qui est effectivement un dispositif de matériovigilance, qui est un dispositif complexe et qui est objectivement n'est pas au niveau de maturité du dispositif de pharmacovigilance. Ça, c'est incontestable.
Oui, mais quand on dit c'est incontestable, on dit il y a une réglementation européenne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que les gens qui écoutent disent, ok, même les acteurs, même les décideurs trouvent que ça ne va pas et pourtant ça ne change pas.
Si, ça change. Bien sûr que si, que ça change.
C'est en train de changer.
Bien sûr, c'est en train d'évoluer et pas depuis 3 mois. Les choses sont en train de bouger de manière importante. D'abord, premier point. La vigilance ne résume pas la surveillance. La surveillance, c'est bien autre chose que la vigilance. La vigilance est un des éléments et qui s'appuie sur des signalements et qui permet d'avoir effectivement un certain nombre d'informations. Donc il y a une base de matériaux vigilance. Aujourd'hui, cette base est imparfaite, surtout si on la regarde en profondeur, elle a beaucoup évolué, on a un problème de signalement, tout n'est pas signalé très très loin de là, on a une sous-déclaration massive, dans le domaine du médicament aussi d'ailleurs, mais enfin, dans le domaine du DM, on a une sous-déclaration massive, on a des tas de difficultés, des problèmes techniques, voilà, des choses qu'on est en train de régler et d'améliorer progressivement. Mais la surveillance, c'est bien autre chose. On fait de la surveillance proactive, c'est-à-dire qu'on prend des classes de dispositifs médicaux sur lesquels on exerce, on va chercher les choses, on fait de la surveillance de marché, on va regarder ce qui se passe. On fait des inspections, on fait des examens dans les laboratoires. On recueille les informations qui viennent de différentes sources. Par exemple, aujourd'hui, on a un sujet sur les dialysas de citrate. C'est un dispositif médical. L'information est venue d'une association.
C'est un produit qui est mis pour les personnes qui sont insuffisants rénaux et on a constaté une surmortalité pour les usagers de ce produit.
Non, il y a une étude qui a montré qu'il y avait possiblement une surmortalité. Cette étude est actuellement en train d'être examinée. Elle est certainement à discuter. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas eu de remontée de type matériovigilance sur le sujet. C'est une association qui a fortuitement découvert le sujet, qui a informé la NSM, qui a immédiatement déclenché une discussion. Donc on voit bien que l'information et la surveillance peuvent venir d'autres sources que strictement la matériovigilance. En la matière, la matériovigilance n'était pas pertinente. Faire le lien entre le dialysat et le décès des personnes dans des environnements comme celui de la dialyse avec des patients extrêmement fragiles, honnêtement, je pense que dans le domaine, je ne critique absolument pas les médecins de ne pas avoir été en capacité de faire des signalements parce que ça n'est pas un sujet de matériovigilance. C'est un sujet de surveillance.
Je vous interromps juste, docteur Dominique Martin. Vous dites signalement, inspection. J'ai envie de vous demander, et après, qu'est-ce qui se passe une fois que le problème a été révélé? Est-ce que vous avez un pouvoir de sanction?
Oui, bien sûr, et on a pris plus de décisions dans le domaine du dispositif médical que dans le domaine du médicament. On nous reproche souvent de ne pas prendre de décisions. On a regardé, en 3 ans, on a pris plus de 80 décisions, des décisions de police sanitaire interdisant des produits, des décisions d'injonction. Les injonctions sont publiques, c'est-à-dire qu'on enjoint les industriels à faire quelque chose, et s'ils ne le font pas, on prend une mesure de police sanitaire, et on... pardon. Et on a pris des mesures de sanctions financières. Et j'insiste, on en a pris plus dans le domaine du dispositif médical que dans le domaine du médicament.
Alors Alexandre Regnault, est-ce que les industriels sont contraints d'agir, de réagir lorsqu'un incident est considéré comme grave? Est-ce qu'ils sont obligés de, on va dire, à réparer l'erreur?
Ils sont obligés déjà de signaler. Ils sont obligés de signaler, dans le cadre de la matériovigilance dont on parlait, tout incident ou risque d'incident ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet d'entraîner un décès ou des blessures graves. Et ça, comme le disait Monsieur Martin, la matériovigilance, c'est un dispositif complexe parce qu'il fait appel à la fois aux professionnels de santé et aux industriels, et chacun est tenu de signaler. Et alors là, il y a quelque chose de très important, c'est que cette obligation de signalement, elle est sans préjudice de l'évaluation du lien de causalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'industriel ait à faire toute son enquête pour décider si lui, il pense que c'est une défaillance du produit qui a causé l'incident. Il doit tout remonter d'abord, et ensuite il fait son enquête. Et bien sûr, il a une obligation, le cas échéant, quand il y a un souci ou potentiel souci sur un produit, de faire sa propre enquête sur le produit avec ses services techniques pour voir s'il est capable de trouver quelque chose.
Encore faut-il retrouver ces produits qui sont...
Alors encore faut-il trouver le produit. Mais j'insiste parce que parfois, on peut passer un petit peu vite sur la différence entre corrélation et causalité. Vous voyez, c'est pas
vous
parce
allez nous
que...
expliquer parce que
oui,
ça,
je vais vous expliquer.
C'est
pas parce qu'on est porteur, par exemple, d'un dispositif médical et qu'il peut vous arriver un pépin, un accident, que cet accident est lié au dispositif médical. Vous voyez, c'est un effet de loupe, c'est une sorte de biais statistique. Je vous donne un exemple absurde. 50% des gens qui auraient un accident de voiture aujourd'hui peuvent avoir fumé une cigarette la veille, ou ont pris un petit déjeuner le matin. Bien sûr que c'est absurde, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre que rapprocher deux faits ne signale pas forcément un lien de causalité. Et pourquoi je vous parle de ce point ? C'est parce que quand on regarde les bases, notamment la base de données américaine, qui bien sûr a le mérite d'exister, et là certainement il y aura des progrès à faire en Europe, eh bien elle recense des cas qui sont signalés, et donc il faut regarder pour chaque cas s'il y a une imputabilité ou non.
Alors justement, si on veut mener l'enquête pour chaque cas, il y a une question clé, c'est la traçabilité.
Absolument.
Il y a les intentions, il y a le cadre réglementaire, mais là on regarde que cette question clé de la traçabilité, eh bien ça ne se passe pas toujours comme la théorie le voudrait, et justement on va avoir un témoignage à ce sujet.
Priorité santé sur RFI.
Cette traçabilité en question, question qui s'est posée directement pour vous, Louis-Vincent, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'association de défense des porteurs de sondes cardiaques défectueuses, association que vous présidez. Alors, Louis-Vincent, racontez-nous.
Je vais quand même rajouter quelque chose que je préside depuis un quart de siècle. Hein.
Ben, c'est pour D'accord. ça, finalement, elle a quand même pas mal tenu, hein, cette sonde cardiaque. Racontez-nous quand même, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Non, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un problème avec une sonde de stimulateur, une sonde auriculaire. Un fabricant avait mis sur le marché une sonde qu'il savait qu'elle n'allait pas fonctionner normalement. J'ai passé sur tout ce qu'il y a eu pendant 14 années. Ce fabricant a été condamné par la justice française. C'était un fabricant américain. A été condamné par la justice française et a disparu du marché depuis ce temps-là. Mais ce que je voudrais quand même dire, et ça me turlupine parce que j'ai entendu pas mal de choses jusqu'à maintenant, quand il arrive un incident sur un de ces dispositifs médicaux que sont les sondes cardiaques, c'est au médecin du centre hospitalier qui soigne, qui suit le patient et qui, ce patient a eu un incident, est obligé de le déclarer à la NSM, comme disait M. Martin tout à l'heure, dans le cas de la matériovigilance. Les fabricants n'ont pas les noms des patients qui ont été implantés. Ils ne savent pas ce qui se passe.
Donc il y a une séparation, il y a un manque d'information. Vous,
tout
personnellement, vous, dans votre expérience, votre médecin vous a informé en temps voulu, vous avez obtenu justement...
Tout. Voilà. Pas du tout.
Et comment vous avez échangé avec lui à ce sujet? C'était quand même votre médecin.
Bien sûr. Mais écoutez,
qu'est-ce qu'il vous a dit?
J'ai échangé pendant toutes ces années, plusieurs fois, avec la Société française de cardiologie, le groupe de rythmologie et de stimulation cardiaque, où il a été impossible de faire entendre raison à ces médecins, sauf 5, hein, qui ont été à peu près corrects, hein, et qui ont joué le jeu convenablement. Mais les autres, non. Je me suis battu je ne sais combien de fois avec eux et ils ne veulent pas entendre raison. Alors, bien entendu, la matériovigilance n'est pas respectée, on bafoue la loi. Voilà. J'ai eu un cas qui s'est passé à Lille où un enfant est décédé. Et le problème qui a eu lieu, c'est que cet enfant qui est décédé, la sonde n'avait même pas été déclarée. L'IGAS s'était mis dessus, et l'Inspection générale de l'action sociale, qui est la police de la santé, et le procureur de la République de Lille aussi avait fait une enquête. Bon, il s'est avéré que ça s'est arrangé après, ok. Mais la déclaration n'a pas été faite.
Bah, j'ai une question naïve, pourquoi cette déclaration n'est pas faite? Pourquoi?
Parce que les médecins se mettent la tête dans le sable, ils s'en foutent complètement, et voilà.
On ne peut pas généraliser, c'est pas la question, mais il y a certains médecins qui ne le font pas, on va peut-être autour de cette table essayer de comprendre pourquoi.
La majorité. Alors, déjà, hein, quand ta patience qui se fait explanter, pourquoi on ne lui délivre pas un certificat médical correct? Parce que c'est à lui après de se retourner contre le fabricant et demander une indemnisation où la plupart du temps, et même tout le temps, le fabricant lui accorde après avoir passé une expertise. Parce que je vois qu'on a accusé une société qui s'appelle la Société Medtronic, avec laquelle je suis en relation depuis 2007. Depuis 2007, j'ai eu je ne sais combien de dossiers avec eux. Ils sont tous arrangés convenablement. Alors, on ne peut pas dire que Medtronic n'a pas été transparent.
Donc pour vous, il y a des responsabilités partagées. En tout cas, il y a un évident déficit d'information. Merci pour ces explications. Louis-Vincent, je rappelle que vous êtes le président de l'Association de défense des porteurs de sondes cardiaques défectueuses. On retrouve nos invités en studio. Chloé Ketzveller, enquêtrice au journal Le Monde. Docteur Dominique Martin, médecin, directeur général de la NSM. Alexandre Regnault, avocat en droit des produits de santé. Et vous, professeur Éric Vico, directeur du centre d'évaluation du dispositif médical APHP. Cette fameuse question, sans jeter bien sûr l'anathème sur les médecins, serait absolument absurde. On peut dire qu'il y a des responsabilités partagées. Comment expliquer que certains médecins ne donnent pas l'information? C'est pas quelque chose qui les engage personnellement. On a du mal à comprendre.
Non, je crois que, bon, d'abord, il faut effectivement, il faut pas généraliser ce déficit d'information, mais il faut pas le nier. Je crois que tous les témoignages montrent que dans le dialogue entre le médecin et son patient, la notion de la nature du dispositif médical et son identification est probablement, sous-estimée. Et de ce point de vue-là, ça rejoint un autre des points qu'a signalé notre correspondant, c'est que la traçabilité de ces dispositifs a été largement défectueuse en termes de possibilité de savoir qui est implanté par quoi exactement. Et c'est un des problèmes. Je voudrais juste, si vous me permettez, revenir, parce que je ne sais pas si on le traitera ensuite, sur les affirmations sur l'évolution du règlement européen. Parce que ces affirmations-là, c'est exactement les mêmes que celles que j'avais entendues en 2007, au moment où il y avait eu un nouveau règlement européen qui était censé régler les questions. On est maintenant en 2018 et j'entends les mêmes choses sur le nouveau règlement
qui devrait être appliqué
en 2020 et qui réglera les questions. J'admets tout à fait qu'il y a eu des améliorations dans ce nouveau règlement. Mais je tiens à dire que, de mon point de vue, ce nouveau règlement ne règle pas un problème fondamental. C'est-à-dire que les dispositifs, en particulier ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les dispositifs implantés, les dispositifs thérapeutiques, n'ont pas l'obligation de fournir des études qui permettent d'évaluer correctement leurs bénéfices et leurs risques. Et je tiens à dire que cette notion-là, qui est une notion médicale, crucial, qui est admis depuis des années pour le médicament, même si elle ne règle pas tout, on le sait bien, mais c'est une condition absolument nécessaire pour le médicament pour être mis sur le marché, ça ne l'est pas et ça ne le sera pas avec le nouveau règlement européen. Donc, de mon point de vue, on a changé des choses, mais on n'a pas été au bout de la question. Et cette question-là, elle pouvait se traduire par deux, trois lignes dans le nouveau règlement qui imposait cette évaluation du bénéfice-risque. Et de mon point de vue, il était absolument indispensable que ce soit fait par une agence indépendante.
Alexandre Regnault, est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans cette affaire s'opposent deux écoles, je vais schématiser, celle de l'innovation thérapeutique et celle de la sûreté sanitaire?
C'est un vaste sujet.
Ah oui, mais c'est quand même le sujet qui est posé.
En fait, je ne crois pas qu'il faille opposer.
Quand on parle patient et industriel, c'est posé, je ne dis pas opposé.
En tout cas, certainement, bien sûr, les deux objectifs doivent être poursuivis. C'est évident. Il ne faut pas choisir l'innovation contre la sécurité, ce serait absurde. Ni non plus la sécurité contre l'innovation, parce qu'on a besoin de l'innovation. Et je tiens à rappeler quand même que justement, le cycle de l'innovation en dispositif médical est très rapide. C'est un cycle d'innovation qui est très différent pour le médicament, puisque les générations se succèdent à peu près tous les 6 mois. Ce qui est d'ailleurs une des contraintes pour l'évaluation. C'est pour ça également, c'était une des raisons pour lesquelles c'était compliqué, en tout cas pour l'ensemble des 1,5 million de dispositifs médicaux à peu près sur le marché, de les soumettre à une évaluation administrative et à une autorisation administrative comme pour le médicament. Alors après, ce règlement européen, comme le disait Monsieur Martin, il résulte d'un débat démocratique qui a eu lieu en Europe, qui a effectivement duré plusieurs années, qui a été porté par la Commission européenne, ensuite par le Parlement européen, et qui a été voté. Il y a eu beaucoup d'opinions qui sont exprimées, il y a eu différents groupes qui ont fait entendre leur voix, il y a eu les États qui ont fait entendre leur position.
Excusez-moi, je vous interromps, parce que vous comprenez que même si on dit c'est ce qui a été décidé en Europe, quand notre père, notre frère, notre enfant doit se faire imposer au bout du compte, la législation, c'est bien que les gens soient contents autour d'eux, autour d'une table, mais là, c'est de notre vie dont il est question.
C'est évident. Et bien sûr que l'enjeu sanitaire a été porté dans ce débat. Et alors, on peut toujours trouver que c'est pas suffisant. On peut toujours trouver qu'il faudrait faire mieux. Je rappelle quand même, alors moi, évidemment, je n'ai pas du tout de point de vue médical, je suis pas médecin, mais je suis juriste, et du point de vue juridique, il est indiscutable que les dispositifs de classe 3 et les dispositifs médicaux implantables actifs doivent faire l'objet d'investigations cliniques. Et ça, avant ce règlement européen, ça n'existait pas. Maintenant, on peut porter des débats, on peut porter des évolutions, soumettre de nouvelles évolutions. Il va y avoir de nouveaux députés européens qui vont être élus cette année. Il faut d'ailleurs absolument aller voter. Et je dirais, l'histoire n'est pas finie.
Oui, mais aujourd'hui, par exemple, quand on nous implante un stimulateur cardiaque, on peut estimer que si ce produit est nouveau, c'est peut-être une question naïve de tout à chacun, il a été testé sur combien de personnes? Comment est-ce qu'on sait que c'est sûr? C'est bête ma question, mais quand même les gens se la posent. Puisqu'il y a le terme de cobaye qui est très souvent utilisé pour schématiser, pour forcer le trait. C'est pas la question. Mais est-ce que je serais finalement le 10e patient à être implanté, le 11e, le 15e? Dominique Martin, vous pouvez nous répondre sur ce point?
Oui, d'autres choses. Alors, une des évolutions pour répondre directement à la question du règlement, c'est que pour les implantables, les essais cliniques seront obligatoires et il y aura l'obligation de se référer à un panel d'experts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais ça ne sera pas rétroactif, pour les nouveaux produits.
C'est l'avenir. Ça ne règle pas tout. On est bien d'accord que ce n'est pas tout ou rien. C'est une avancée significative et par rapport à la situation aujourd'hui. Je pense qu'il faut distinguer ce sur quoi porte le règlement, qui est le produit lui-même, de la stratégie thérapeutique. Parce que c'est deux choses qui sont des notions qui sont différentes. Je pense effectivement, dans le domaine du médicament, non seulement on donne une autorisation de mise sur le marché sur l'évaluation du bénéfice-risque, je dirais, intrinsèque. Et après, on regarde si ce médicament apporte quelque chose de plus que des médicaments qui sont en place. Et ça, c'est la dimension stratégie thérapeutique qui nécessairement n'est pas traitée par le règlement européen et qui mériterait objectivement d'être traitée. Est-ce que un nouveau dispositif implantable apporte des choses supplémentaires par rapport à un ancien, par rapport à par rapport à des alternatives thérapeutiques? Donc ça c'est, mais il faut distinguer le produit et ce qui est propre au produit et la stratégie thérapeutique de l'utilisation du produit. Je voudrais aussi faire une remarque. On a évoqué tout à l'heure la question de la traçabilité qui est très importante en évoquant le lien entre médecin et patient. Ça n'est pas qu'une question de relation médecin-patient. C'est une obligation réglementaire depuis 2006.
Mais vous n'êtes pas sans le savoir que c'est pas vrai.
C'est
pas respecté.
Non, bien sûr que ça n'est pas respecté. Mais c'est une obligation réglementaire qui n'est pas respectée. Ça, c'est clair. Elle n'est pas respectée. Et alors là, pour le coup, s'il y a quelque chose qui est un vrai problème, c'est cette absence de traçabilité. Ça n'est pas normal alors que le règlement le prévoit depuis 2006. Ça n'est pas respecté. Et chaque patient est en droit de savoir quel type de dispositif
il
a.
Est-ce que la NSM compte agir auprès de l'ordre des médecins pour contraindre à respecter cette obligation légale?
Mais enfin, nous n'agissons pas auprès du conseil de l'ordre des médecins.
Je ne sais pas, une réunion, quelque chose pour faire avancer le débat.
Non, mais on est tout à fait d'accord. D'abord, le débat avance et grâce notamment à l'intervention des médias, et ça, c'est très bien. Il faut que ces choses-là soient mieux connues et mieux appliquées. On passe notre temps à expliquer que les choses doivent être effectivement respectées. Et je pense que s'il y a... Il y a vraiment deux sujets majeurs qui mérite d'évoluer, c'est clair, c'est la traçabilité des produits. Il faut absolument qu'on ait une traçabilité totale, et ça, pour l'instant, ça n'est pas le cas, et clairement, c'est une insuffisance, et le droit actuel le permet, et normalement même l'oblige, et ça n'est pas le cas, et effectivement, une meilleure utilisation des signalements. Il y a maintenant un portail des signalements qui est ouvert à tout le monde, y compris dans le domaine de la matériovigilance, qui devrait favoriser les signalements. Donc on espère que ces choses vont s'améliorer dans le temps.
Le professeur Eric, que vous vouliez réagir.
Oui, je dois dire que je suis un petit peu étonné de votre satisfaction, Monsieur Martin, par rapport à la situation actuelle. Parce que je vous demande, est-ce que vous avez beaucoup de dossiers de médicaments pour lesquels vous donnez une autorisation de mise sur le marché qui n'ont pas d'études comparatives? Je dois dire pour les auditeurs que dans le dossier d'un médicament qui a son autorisation de mise sur le marché, il y a en général deux très grandes études qu'on appelle pivotales qui vont comparer ce médicament avec un autre médicament pour démontrer justement quel est son bénéfice et pouvoir estimer ses risques en fonction des bénéfices. Cette exigence-là, elle n'est pas demandée pour un dispositif médical qui soigne. Et elle ne le sera pas. Non, elle ne le sera pas. Elle n'est pas imposée. Vous n'avez absolument pas dans le règlement européen que j'ai épluché sur ce point. Vous avez des périphrases d'investigation clinique, ce qui ne veut rien dire, d'essais cliniques, ce qui ne veut rien dire. À partir du moment où on ne dit pas que ce sont des essais comparatifs, vous n'avez absolument pas l'obligation de ces études pivotales. Et ce que je pense, c'est que pour le patient, qu'il soit traité, qu'il soit soigné avec de la chimie comme un médicament ou qu'il soit soigné avec de la physique comme un dispositif médical, le problème, c'est que avant qu'on puisse mettre sur le marché le produit qui le soigne, il soit évalué exactement au même niveau. Et tant qu'on n'est pas dans cette obligation, je dirais, de base, eh bien, de mon point de vue, on n'a pas résolu cette question. Et cette question-là, ça n'est pas évidemment la clé de tous les problèmes, mais c'est une condition nécessaire pour que les dispositifs puissent être mis sur le marché avec un bon niveau.
Chloé Eketsveller, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur un point qui ressort à plusieurs reprises dans cette grande enquête des Implant Files, la notion de conflit d'intérêts. Ça revient, c'est récurrent. Alors on va revenir tout d'abord, on a employé tout à l'heure le terme, les organismes notifiés, des entreprises chargées de la certification. Vous pouvez un petit peu nous décrire leur fonctionnement ?
Alors, ces sociétés privées qui ont, pendant pas mal de temps, été au nombre de 80 en Europe, sont des sociétés qui sont payées par les fabricants pour évaluer leurs dossiers. Et ces organismes notifiés se soucient essentiellement de la conformité en fait du dossier. C'est essentiellement de la paperasse. Et jusqu'à présent, les industriels pouvaient fournir des études cliniques ou ne pas en fournir, et les organismes notifiés étaient chargés de regarder la validité scientifique de ce qui leur était présenté. Le gros problème de ces organismes notifiés, c'est que jusqu'à présent, ils n'avaient pas forcément de personnel compétent pour faire de l'évaluation de dossiers cliniques, par exemple. Donc c'est vrai que si quelqu'un est spécialisé dans des produits de la vie courante, se pencher sur un dossier clinique requiert quand même beaucoup d'autres compétences, et du coup, voilà, il n'y avait pas ce regard expert qui pouvait exister sur les dossiers.
Alexandre Regnault, ces organismes notifiés, quelle est leur crédibilité aujourd'hui ?
Alors leur crédibilité, bon, on peut toujours en discuter, mais juste peut-être expliquer pourquoi le mot notifié. On les appelle ce sont bien sûr effectivement des sociétés privées. Ils sont notifiés parce qu'ils sont notifiés par une autorité de désignation, qui est l'autorité de leur pays. Là où ils sont enregistrés, ils sont notifiés à la Commission européenne. Ce qui veut dire qu'il y a une autorité nationale qui va les accréditer. Donc ces organismes qui eux-mêmes vont regarder ces dossiers de marquage CE, eh bien ont une autorité de supervision, si vous voulez, qui est l'autorité nationale. En France, il y a un organisme notifié, il y a d'autres pays européens où il y en a beaucoup plus. Et à ce sujet, il faut quand même dire aussi, là encore juste un point sur l'évolution. Il y avait effectivement jusqu'à peu, à peu près 80 organismes notifiés. En Europe, il y en a beaucoup qui sont en train de disparaître ou qui ont disparu, précisément dans le cadre de cette montée en gamme et d'exigences supplémentaires du règlement européen. Et à ma connaissance, il y en a à peu près 50 maintenant. Donc, vous voyez, il y en a déjà pas mal.
Mais les gens qui y travaillaient avaient des compétences scientifiques ?
Ah bah,
ou c'était
oui,
purement administratif. Je les connais pas.
C'est dans les textes. Je suis pas allé les auditer moi-même un par un. Je crois qu'il est assez généralement reconnu que tout ce n'était pas au bon niveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui ont disparu. Et il y en a peut-être encore d'autres qui vont disparaître. Et d'ailleurs, tous ces organismes doivent rentrer dans une démarche de nouvelle certification dans le cadre du règlement européen. Et je suis allé regarder il y a quelques jours la liste, parce que c'est public, sur le site de l'Union européenne, et il y en avait un peu plus de 30, à peu près 35, donc même pas les 50 existants. Donc vous voyez, il y a une certaine marche à gravir, et effectivement, je crois que ce nouveau cadre donne quand même l'occasion, là aussi au niveau des organismes notifiés, de monter en gamme sur la sécurité et sur les compétences.
Alors Chloé Eketsveller, conflit d'intérêts chapitre 2, la stratégie d'influence, vous dénoncez dans l'un des articles, il y en a très nombreux, vous décrivez notamment cette situation, qui n'est pas nouvelle, c'est assez connu, des consultants industriels qui sont présents pendant des opérations chirurgicales, en tout cas une partie du public l'a découvert à cette occasion.
Oui, les industriels, en fait, dans le domaine du dispositif médical, accompagnent très souvent le personnel soignant, d'abord dans un but de formation, qui est d'ailleurs souvent prévu par les autorités, donc là, il y a rien d'illégal, donc ils sont là pour aider le chirurgien dans les premières interventions, regarder un petit peu ce qui se passe dans la salle pour vérifier que le matériel est bien préparé, voilà, et normalement, ce personnel est là uniquement pendant les premières interventions, donc il s'agit souvent d'un médecin, et puis d'un technicien qui prend un peu le rôle d'un infirmier. Ce qui se passe en revanche, qui pose plus de questions, c'est la présence sur le plus long terme, dans certains établissements, de ce personnel médical rémunéré par les industriels, qui va se substituer dans certains établissements au personnel soignant.
Dominique Martin, est-ce qu'il y a matière à changer les choses sur ce chapitre précis au niveau de la réglementation sur la présence prolongée? On parle pas bien sûr de la mise en service, de la formation, de l'initiation, mais sur le plus long terme, est-ce qu'il y a matière à changer les choses?
Alors, moi, je ne suis pas chargé de l'organisation des soins et l'organisation des hôpitaux. Chacun doit rester sur son champ de compétences. La question du traitement du conflit d'intérêts commence par la transparence. Chacun doit dire d'où il parle. C'est souvent ça qui est le mieux et qui est le plus clair. Par contre, à titre personnel, je trouve que ça pose effectivement une vraie difficulté. Et là-dessus, je partage l'analyse. Je trouve qu'il y a trop de consanguinité et je pense qu'une meilleure séparation et mieux organisée serait sans doute souhaitable, mais ce qui a été évoqué, c'est le fait qu'il y a une véritable évolution sur les organismes notifiés qui était nécessaire, parce que clairement ils étaient très loin d'être tous au niveau. Je dis pas non plus là encore que demain
tout sera parfait,
mais il y a quand même une vraie évolution. Et notamment une évolution qui est très importante, c'est que aujourd'hui, pour être accrédité, les nouveaux organismes notifiés, enfin pour être re-accrédités, doivent subir une inspection de plusieurs pays et de la Commission européenne, ce qui est beaucoup plus contraignant. Et pour en avoir réalisé, enfin avoir nos corps d'inspection et les corps d'inspection de la NSM en avoir réalisé récemment, je peux vous assurer que les contraintes sont beaucoup plus importantes, les exigences sont beaucoup plus fortes, et ça constitue malgré tout une avancée, même si on peut encore s'interroger sur la nature du dispositif lui-même. Je comprends que le débat ait lieu, hein, y a pas, ça ne me choque pas, mais par contre, si on met les choses dans le temps et on regarde les évolutions, elles sont quand même positives dans ce sens-là.
On en attend beaucoup, hein, de cette nouvelle réglementation.
Mais c'est en cours, ça c'est d'ores et déjà en cours, hein, ça n'attend pas 2020, c'est d'ores et déjà en cours, le nombre d'organismes notifiés a diminué drastiquement, les exigences sont beaucoup plus importantes, et c'est déjà en cours.
Est-ce qu'on peut dire trivialement que le ménage a commencé à être fait?
Oui.
Voilà. Alexandre Regnault, vous vouliez réagir peut-être au sujet de cette présence de consultants industriels dans les blocs opératoires?
Bah, peut-être en tout cas juste pour dire oui de choses, la raison et puis les points de vigilance. La raison effectivement, et comme Madame l'a très justement rappelé, c'est au départ un but de formation, puisque ces produits, surtout bien sûr ce qui est implantable, sont opérateurs dépendants, ils sont complexes d'utilisation, les chirurgiens sont bien sûr professionnels et très expérimentés, mais le produit lui-même, ils le découvrent. Donc il est indispensable que quelqu'un qui connaît le produit, et donc ça peut être qu'un représentant de l'industriel, qui soit là pour, à tout le moins, répondre à toute question. Alors après, les deux points de vigilance, c'est quoi? D'abord, la transparence. On n'est pas dans le zéro règle. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il y a des recommandations du Conseil de l'Ordre des médecins, là-dessus, en 2012, qui font que le professionnel, enfin l'ensemble de l'équipe soignante, l'établissement et également le patient qui fait l'objet de l'intervention soient informés de cette présence. Et le patient, ça, c'est dans les recommandations du CNOM. S'il n'est pas d'accord, il n'y a pas de présence. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est sur le champ de l'intervention. Il est évidemment hors de question qu'un tiers exerce la médecine ou se substitue un médecin. Et là, je crois que là-dessus, il faut être absolument clair.
Alors, Chloé Eketzweiler, conflit d'intérêts, troisième chapitre, et ce sera notre dernier chapitre, lobbying européen. Parce qu'on a parlé de santé, mais on n'a pas vraiment parlé de marketing. Et pourtant, le marketing n'est pas très très loin. Le marketing, l'intérêt économique, parce que ce sont des intérêts industriels. Et ce lobbying européen, d'après vous, c'est un véritable frein qui explique notamment les retards pris dans l'évolution de la législation. On l'a dit, le processus a été lancé de longue date, même s'il y a eu des évolutions au cours du temps. Hein, tout ne va pas arriver à une date fatidique de 2020. Mais quand même, qu'est-ce que vous avez justement pu trouver comme information au sujet de ce travail, on peut dire, des fois de sape de la part de ces lobbies qui essayent de maintenir la situation en l'état?
Alors pour revenir un petit peu en arrière, dès les années 90, le choix de ce marquage CE plutôt qu'une autorisation de mise sur le marché, comme pour les médicaments, s'est fait justement parce que les industriels ont réussi à faire prévaloir une vision commerciale plutôt qu'une vision sanitaire qui était celle portée pour les médicaments. Ensuite, à chaque évolution de la législation, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour financer des associations professionnelles, donc ils se regroupent, c'est pas un industriel qui va voir un parlementaire européen pour défendre sa vision, mais pour avoir une stratégie de fond pour produire des documents, produire des études, faire des rendez-vous, avec une stratégie au long cours pour influencer en fait la vision qui va être ensuite portée par
en même
par
temps
l'Europe.
On comprend que les instances européennes, y compris certains élus, soient sensibles au discours sur l'emploi, sur l'innovation, sur les parts de marché. C'est quand même quelque chose qui leur parle aussi.
Tout à fait, mais mélanger des sujets économiques et des sujets de santé, ça n'a pas toujours de sens, et dans tous les cas on ne peut pas faire prévaloir des intérêts économiques sur la sécurité et la protection des patients.
Professeur Eric Vicot, cette législation, elle va évoluer. On a compris en vous écoutant que, selon vous, il reste encore pas mal de choses à faire. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, on va, en tout cas, c'est le mot de la fin, et on va faire un petit tour de table rapide pour donner la parole à chacun d'entre vous, on va dans la bonne direction ou le chantier est encore énorme ?
Alors, vous avez, je pense, compris que je considère que cette nouvelle réglementation, certes, sur certains points, présente des améliorations, mais qu'elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc je pense qu'il faut de nouveau mettre sur la table cette question, et j'espère que, comme ça a été dit, peut-être que les élections européennes seront aussi un bon moment pour faire réfléchir les politiques et leur faire prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leur population.
Docteur Dominique Martin, vous disiez tout à l'heure que la France avait été en quelque sorte à l'avant-garde dans l'évolution. Est-ce que justement demain la France est encore prête à un petit peu reprendre les rênes pour aller plus loin, pour plus de protection des patients, des usagers de santé ?
Oui, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a encore des discussions. Le règlement sera pleinement applicable en 2020. Il y a encore des discussions, par exemple, sur la question de savoir si les données de matériovigilance seront publiques ou pas. Et il y a des débats entre des États qui sont pour, des États qui sont contre, et la France est très en avant pour dire il faut absolument que ces données soient publiques. Donc, et d'autres discussions se tiennent. Nous, notre position, ça n'est pas finalement de faire des commentaires, je suis ni journaliste ni homme politique, par contre dans le cadre réglementaire tel qu'il existe, il y a des choses à faire, et y compris des choses à améliorer au sein de l'agence de la NSM, on en est tout à fait conscient, et c'est ce à quoi on travaille.
Alexandre Regnault, ne pas opposer forcément ceux qui fabriquent des dispositifs de santé et les usagers, justement, il y a un vrai problème de réconciliation, parce que à lire ces articles, à entendre justement tous les reportages sur la question, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se font jour. Comment justement réconcilier les deux ?
Bien sûr qu'il ne faut pas opposer sécurité et innovation, et il ne faut pas opposer vision commerciale et vision sanitaire, parce que toutes ces entreprises, elles sont au service des patients. Ces produits, ils arrivent pour rendre service aux patients. Et un petit mot pour dire que beaucoup de cette innovation, elle est française. Et on devrait être content que cette innovation soit française. La société qui travaille, qui emploie des ingénieurs, des chercheurs pour développer des solutions de pointe en santé électronique pour que les personnes soient plus autonomes dans la gestion de leur maladie. La société qui développe le futur cœur artificiel. Tout ça, ce sont des sociétés françaises. Donc je pense qu'effectivement, la transparence, la gestion des conflits d'intérêts, on peut toujours améliorer. La sécurité, il faut que ce débat soit posé, mais il ne faut pas qu'il soit posé dans des termes qui menacent cette innovation au service des patients.
Chloé Ketzweller, le mot de la fin, très brièvement, parce que je voudrais vous remercier tous les uns après les autres, pour dire en tout cas, vous avez eu beaucoup de réactions après la publication de ces articles.
Oui, on avait mis en ligne un formulaire qui permettait à tous nos lecteurs, auditeurs de faire des commentaires. Il y a beaucoup de patients qui nous ont fait part de leur expérience et nous ont aussi demandé de continuer à suivre ces histoires.
Merci beaucoup à tous les quatre, hein, Chloé Ketzweller, docteur Dominique Martin, professeur Eric Vicot, Alexandre Regnault, d'avoir répondu à notre invitation et participé à ce débat. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Lundi, nous nous interrogeons sur le droit à la santé, alors qu'est célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Appelez-nous pour vous parler de l'accès aux soins chez vous, dans votre pays, dans votre village. 33 84 22 75 75 à lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre